Betclic, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Chez But, il y a tous les styles de canapés, hein. Et des remises tout aussi stylées. Malin, ça.
En ce moment, chez But, que vous soyez angle, relax ou convertible, c'est confort maxi à prix réduit. Profitez-en.
Et sinon, vous, c'est quoi votre style préféré?
Voir conditions en magasin et sur but.fr.
Dans un instant, Génération After, merci d'écouter RMC, il est 20h.
RMC.
Quand, Serge Aurier, eh ben, t'as la moutarde qui commence à lui monter au nez et qui commence à rentrer justement dans cette idée, on va commencer à mettre des coups, et ben Emerson est fait.
Tout à fait d'accord, et même en se focusant sur le changement contre City.
C'est focusant.
Non, ça n'existe pas.
Tout est basé sur des mensonges. Et quand on a des joueurs qui mentent, quand on a une direction qui ment, quand on a un entraîneur qui ment, voilà ce qui arrive.
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande. Salut Thibaut, je pense à toi, moi c'est Nico Jamin. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur RMC Génération After. Et bonjour à toi qui nous écoute un podcast et nous regarde. Désormais, c'est installé, vous le savez, c'est un succès sur Afterfoot TV. Ce soir autour de la table, Elton Mokolo qui ne vivra pas une finale de Ligue des Champions. Bonsoir Elton.
Salut Nico, salut à tous.
Ah ouais, la voix chevrotte en plus. Hein,
ouais, okay. Il est ému.
Il est toujours dans l'émotion.
On a pris un peu froid, mais sinon ça va. Ouais. Bah après, il s'est passé quelque chose d'improbable à 3-2.
T'as pas un club numéro 2 quand même de remplacement, non? C'est le Barça, c'est tout quoi. En France, y'a rien, même pas en France.
C'est déjà pas mal, non, y'a personne en France.
C'est dingue ça.
Quand tu dis improbable, c'est en dehors de la.
Félix Froid, vous parlerez quand je vous aurai présenté. Dis bonsoir, s'il vous plaît.
Bonsoir.
Des règles à respecter à la radio. Salut Félix.
Bonsoir à tous.
Félix, la question traditionnelle.
Nulle part.
Nulle part ce week-end?
Téléfoot, émission.
Ah d'accord. Tu te vends un peu à tous les médias du PAF, en fait, c'est ouais, ça ton idée.
J'aime pas trop vos insinuations. Ouais. je vois ce que vous voulez
donc
dire.
Donc, nulle part, pas sur le multiplex.
Non,
ok.
Ni là, ni celui d'après.
Bonsoir, David Guzman.
Bonsoir, Nicolas Jamin.
Bonsoir un peu faillot, je trouve.
Moi, mon bonsoir.
Très, très premier de la classe, premier rang.
Hein. Absolument. Bonsoir, Nicolas Jamin. Je suis studieux, c'est ça. Hein. Ouais. J'ai des notes, ouais, bien sûr.
C'est vrai. On est ensemble jusqu'à 22h, c'est Génération After. On va revenir, bien sûr, sur la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions le 31 mai. Tiens, on va pas revenir sur le match d'hier soir, mais surtout sur la phase finale du PSG. Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné? On pourra même remonter jusqu'à Manchester City, hein, qui est un peu le point de départ de l'aventure parisienne. City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. On va en débattre avec vous également au 32-16, Donnarumma, Dembélé, Fabien Ruiz, João Neves. Allons-y avec vous. Cette question également, qui est favori de la finale qui s'impose, on sera avec Maxime Tillietz, notre correspondant dans le sud de la France, Sud-Est, qui était en Italie hier à Milan avec les Tifosi de l'Inter, et Johan Crochet pour l'analyse tactique. 21h à Videlton. Luis Enrique n'a jamais été aussi fort. Tu l'as connu, suivi de près au Barça, et notamment lors de la victoire en Ligue des Champions en 2015. Pour toi, il est plus fort qu'il y a 10 ans en Catalogne. Et puis David sur l'OL et son avenir. John Textor, la fin de la grande illusion. Et comme c'est jeudi soir, le quiz de l'after avec Jérôme Thomas. Vous envoyez quiz d'ailleurs dès maintenant au 732-16. Quiz au 732-16 pour y participer et tenter de gagner un bomber shot. Il a déjà gagné, je crois, un bomber shot. Il est avec nous, il sera là à 22h. Bonsoir Gilbert.
Salut Thibaut.
Merci Florent. Ça colle pas.
Non, ça colle pas. Tout à l'heure, la Ligue des Champions. Bien sûr, on reviendra sur les demi-finales. On s'est régalé cette semaine. Et Kevin Diaz sera là. Kevin Diaz nous dit : je me suis réconcilié avec le football. On savait pas qu'il était fâché.
Bon, oui,
mais bon, mais. Il s'est un peu tourné vers la Kings League ces derniers temps.
Oui. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si le Havre se maintient en Ligue 1?
Ah oui, ouleur, effectivement.
Le plus grand exploit du sport mondial.
Grégory Pesley sera là également, ex-joueur du PSG et de Strasbourg, bien sûr. Mm-hmm. Lui, il ne veut pas parler de Nuno Mendes parce qu'il a mis le doigt, il met les doigts sur ce qui n'a pas très bien marché
quand
même.
Ah oui, c'est bien ça.
Hier soir. Et puis, on parlera également de Lyon ce soir. Lyon très inquiet.
Lyon 14. C'était...
Ah non. Là, on parle de Lyon, Lyon 1er, l'Olympique lyonnais. Voilà. Et puis le drôle de l'âme, pourquoi? Parce qu'il y a des matchs ce soir, évidemment. Demi-finale retour de Conference League et Europa League, donc les demi-finales. Donc les drôles de l'âme seront là, évidemment.
Voilà. Gilbert.
Il y aura peut-être du Léon dans le quiz tout à l'heure. Moi, je ferai un quiz spécial Léon dans le football.
C'est ça.
Goretzka, par exemple.
Et il y a le premier match des playoffs de Championship, les gars, quand même, pour monter en première ligue, le meilleur cher du monde.
C'est quoi la
Leighton Orient.
Bristol, c'est le Championship pour monter.
Ah, Championship,
Bristol contre qui?
Bristol, c'est Finn United, quand même.
Tu nous cites trois joueurs de Bristol?
Ben non, il fait tout le groupe, il fait les 23. Donc partons pas là-dessus, ça va être long. Okay.
Mais il est impressionnant, moi j'adore.
Okay. Bon, alors vas-y. Latéral gauche, Bristol.
Oh non, latéral gauche.
Ah ben voilà,
je vous laisse un schéma super novateur, il n'y a pas de latéral gauche. C'est un truc super central, c'est intéressant à regarder.
Non,
mais... Donovan Léon. Non, je réfléchissais pour votre quiz.
Eh bien.
Non.
Donc non, ok, merci. Une légende, c'est un. T'as pas les noms?
Si, Jones qui traîne.
Non, Naki Wells, Naki Wells,
Naki limite, Félix Roy.
Non, Naki Wells, Andy Wayman. Non, je vous.
Ok.
Scott Twine.
Ok, on ne peut que te croire, évidemment.
Ouais,
quoi.
Ouais.
En tout cas, apparemment, Jim me dit, il a la compo dans les yeux, il n'y en a aucun qui démarre. Donc je pense qu'on est sur le linceul.
Scott Twine ne démarre pas?
Scott Twine, est-ce qu'il démarre, Jim Moran? Scott Twine,
ouais, tu ne démarres pas?
Non, on l'a pas, voilà.
D'accord.
Le masque est tombé.
Mais non, pas du tout.
Alors, je plaisante.
Moi, je te crois.
Les amis, 20h05, RMC, quel joueur vous a le plus impressionné dans la phase finale du Paris Saint-Germain? Commençons de la dernière journée de la phase de Ligue, hein, City, jusqu'à hier soir, bien sûr, face à Arsenal, la demi-finale, retour. Vous nous appelez au 32-16, bien sûr, pour en parler. On parle de 7 matchs, 4 rendez-vous, 7 matchs au total. C'est parti, je vais commencer. Tiens, avec toi, Félix, s'il fallait ressortir un joueur, en fait, du 22 janvier au 7 mai, quel est celui que tu veux mettre en avant ce soir?
Je vais en sortir un petit peu inattendu, parce que bon, il y a tellement de joueurs d'impact dans cette équipe qui ont réalisé des performances incroyables. Mais je pense qu'à l'unisson, toute l'Île-de-France et ses 12 millions d'habitants faisaient le même mea culpa au même moment très exact du match d'hier sur Fabian Ruiz.
Ah, c'est intéressant, t'aurais pu dire de Donnarumma, ça collait aussi.
Ouais, alors c'est vrai, complètement.
C'est un super crochet, Félix.
Hein, ouais, parce c'est que un petit crochet, là. Pas,
ouais. Complètement, mais bon, Donnarumma a été particulièrement décrié dans cette équipe. D'ailleurs, ironie du destin, particulièrement au soir de l'Emirates pendant la phase de Ligue. Mais Fabian Ruiz a joué tous les matchs de cette Ligue des Champions, les 16. Il y en a que 3 qui n'a pas démarré, si je dis pas de bêtises. Le fameux Arsenal, le Bayern et la défaite contre l'Atlético au Parc des Princes. Et à l'image du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, dans tout ce qu'il a décidé de faire, a été croissant, a pris de plus en plus d'impact, a pris de plus en plus de sérénité, de confiance en lui. On est même sur le match d'hier particulièrement, un petit peu sur l'allée, mais c'était criant hier, passé un Fabian Ruiz qui était pour moi meilleur que celui qu'on a vu à l'Euro. Tout le monde appelait de ses voeux le retour du Fabian Ruiz de l'Euro.
Ouais.
En plus, l'histoire du foot n'est jamais aussi belle que quand c'est des anti-héros qui prennent le pouvoir et qui, comme disent les jeunes, font fermer des bouches, même si il est normal d'avoir critiqué Fabian Ruiz sur sa première saison au Paris Saint-Germain. Les faits étaient sous les yeux de tout le monde et Fabian Ruiz, clairement, était insuffisant. Luis Enrique, comme souvent, a particulièrement insisté dans l'équilibre qui lui amenait, même si parfois ses performances étaient un petit peu en deçà. J'ai en mémoire, par exemple, une action où pas grand monde lui a rendu crédit, mais qui est la passe sur Kvaratskhelia lors du match aller contre Aston Villa, qui est une passe extrêmement difficile à faire. Hakimi lui met le ballon, il l'a un petit peu derrière. Alors évidemment, derrière, Kvaratskhelia fait un truc de fou sur Dizazi.
Et tout de suite, il arrive à bien pivoter.
En une touche, il pivote, il la met parfaitement dans le bon timing, ce qui fait que les différences qui étaient creusées sur la sortie de balle du PSG se maintiennent. Et donc, Dizazi est en 1-1, et donc but. Hier, il en sort une, mais de dingue, qui se finit par une passe un peu trop longue de Kvara pour Barcola, qui fait son crochet et qui derrière loupe son occasion. Bon, je parle même pas du but, hein, tout le monde l'a vu.
Ouais, mais alors il y a pas que les actes spectaculaires entre guillemets Fabien Ruiz, il y a aussi sa gestion du tempo, quoi. C'est le seul qui, et notamment hier, bon, il a pris la foudre, hein, comme tout le monde, hein, ce premier quart d'heure, bien sûr. Dans un second temps, quand les débats se sont équilibrés, c'est le seul qui est arrivé à alterner jeu direct,
jeu court, jeu long,
mais aussi calme avec le ballon, tu vois. C'est le seul qui s'est gagné 3 secondes.
Et la gestion des espaces aussi.
Il a toujours perdu 2-3 ballons hier soir. C'est complètement.
Il est toujours fou. Là où le jeu le demande. L'occupation des espaces, c'est impressionnant. Les compensations, en fait, quand il y a un latéral qui monte, il est toujours en train de compenser. Défensivement, c'est vraiment impressionnant.
Et comment des.
Il y aurait une sorte d'inutilité, mais aussi d'illégitimité
des incontournables. et son biographe. Si j'étais une intelligence...
Hein, déjà, les cochonous T'as du souffle.
Dans toutes les séries et...
C'est pas une français, la...
Avant de faire... Incroyable, donc ça veut dire que le rôle des congrégations générales...
Il est... Je suis overfab et je...
Le décor du... Enfin, le décor du spectacle devient...
Caractérisé.
Éternel adieu.
Qui rejoignent la quête de tous les êtres. Mes premières conventions, il fallait marquer
Bernard Lecomte d'avoir été
d'autant plus valorisant qu'il n'a pas de statistiques contre Arsenal. Et donc on met en avant son travail parce que effectivement du côté de Naples, moi
j'ai une passe décisive à Dembélé à l'aller. Ah ouais,
oui, moi je l'avais vu. Je parlais sur match retour, mais.
Und im Sinn.
Quelques notes du vaisseau fantôme de la balade de Senta, chantée ici par Lise Davidsen, dans ce tout récent enregistrement d'Edward Gardner avec l'Orchestre de l'Opéra National de Norvège. Le vaisseau fantôme qui fait donc l'objet d'une nouvelle production toulousaine mise en scène par Michel Faux. Michel Faux qui nous parle de ces deux personnages que sont le Hollandais maudit en quête de rédemption par l'amour absolu et puis Senta qui tombe amoureuse d'une légende représentée sur un tableau.
Ben, en effet, les deux sont en quête d'absolu et elle fantasme sur une image. Lui, il fantasme sur une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Donc tout ça est très, très abstrait, en fait. Et quand ils se rencontrent dans la vie, on va dire, ça ne va pas se passer aussi bien que ça parce qu'on a affaire à deux solitudes, en fait. Il n'y a pas vraiment de contact, finalement. Et il y a un contact, en fait, ils vont se retrouver dans la mort, dans la destruction. C'est ça le romantisme, donc c'est pas joli joli, mais ils vont se retrouver dans le sacrifice en fait.
Dans le romantisme, il y a de la violence, donc ce n'est pas que de la poésie.
Oui, et puis la poésie est violente souvent, hein, donc oui, non, non. Vous savez, c'était Victor Hugo qui disait que le romantisme, c'est le mélange du grotesque et du sublime. Le romantisme s'est inspiré du théâtre shakespearien en fait. C'est arrivé au 19e, mais c'était inspiré de la Renaissance.
Alors c'est Frank Berman qui dirige ce vaisseau fantôme, un chef d'orchestre que vous connaissez bien, Michel Faux. Vous avez déjà collaboré avec lui, notamment pour Elektra à Toulouse. C'est un grand wagnérien. Quel éclairage vous a-t-il apporté sur Wagner et comment décririez-vous votre collaboration avec Frank Berman sur cette nouvelle production ?
Ce qui est formidable avec Frank, c'est qu'il est là à toutes les répétitions, même quand ce n'est pas musical. Et donc, souvent même, il finit par donner des indications sur le sentiment à incarner qui est lié à la musique. Et moi, parfois, je parle de couleur musicale ou sur un geste, je colle le geste sur la musique. Donc, en fait, on travaille vraiment main dans la main. Et lui, il parle d'interprétation et moi, je parle de musique. Donc, c'est ça qui est... On s'entend vraiment extrêmement bien. Et je crois qu'il est content aussi. Moi, j'ai envie de raconter l'histoire pour de bon. Je fais confiance à Wagner, qui connaissait très bien le théâtre et qui donne des indications formidables qu'on ne respecte jamais, alors qu'il y a des choses vraiment très, très troublantes dans ce que propose Wagner. Il connaissait vraiment très très bien son histoire et son affaire. Et donc, moi je pense aussi aux gens qui ne connaissent pas l'histoire, et j'ai envie vraiment de leur... Il y a tout un public qui ne connaît pas l'histoire, ou qui connaît mal l'histoire, et j'ai envie que ce public-là soit concerné, quoi.
Oui, que l'histoire soit lisible, compréhensible.
Oui, parce que l'histoire est magnifique. Parce que l'histoire est magnifique. Et puis j'ai envie que ceux qui connaissent cet opéra découvrent des choses qu'ils n'avaient pas vues et puis qu'ils retrouvent le lyrisme de cette œuvre. C'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose d'assez artificiel, qui est un tableau avec des toiles peintes et avec les bateaux tels que c'est indiqué dans les didascalies. Et avec Christian Lacroix, qui signe les costumes, on s'est rendu compte que... Parce que souvent, cet opéra, il était monté en costume 19e, c'est-à-dire à l'époque de Wagner, ou en costume moderne, beaucoup, beaucoup, en costard-cravate, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'action se passait à la fin du XVIIe siècle en Norvège. Et donc, on est parti vraiment de ça. Donc, les personnages ressemblent un peu à des poupées, en fait, costumées, mais qui vont vivre des choses très, très radicales.
Oui, puisqu'on peut parler de choses, de thèmes qui nous touchent aujourd'hui sans pour autant transposer cela, mais en gardant la périodicité de l'histoire.
Oui, je pense que le public est assez intelligent pour comprendre que ces sentiments passionnels et scandaleux traversent le temps. Et puis, il y a des histoires de mode aussi. Je pense que peut-être qu'il y a 40 ans, c'était bien de vouloir moderniser les choses. Mais maintenant il ne faut pas que ça devienne un académisme, quoi. Donc du coup, je me disais, si on partait vraiment de l'époque où ça se passe, qu'est-ce que ça ferait ? Alors après, tout ça est très stylisé, c'est du théâtre, c'est pas de la reconstitution historique. Et puis avec Christian Lacroix et Antoine Fontaine, automatiquement, il y a une interprétation. C'est pas la mise en scène de la création, mais on s'en inspire en fait. On s'inspire de l'imagerie wagnérienne, qui est très belle en fait.
Alors c'est votre premier opéra de Wagner, Michel Faux. Est-ce que cela vous donne envie de continuer ? Est-ce que vous rêvez d'un ring, par exemple ?
Bah évidemment. Moi, j'ai découvert le Ring quand j'étais jeune. J'ai découvert ça comme une série télévisée, quoi. J'achetais les DVD, les livres, etc., pour savoir comment, savoir la suite, quoi, parce que c'est, y a que ces quatre épisodes, en fait. Mais je trouve que Wagner, ça répond à un désir du vrai public. Le vrai public est passionné par les légendes, on le voit dans les séries ou dans les films. Il est passionné par les légendes et par les choses en costume et les choses épiques et poétiques.
Oui, c'est vrai que Wagner peut toucher un très large public et notamment la jeunesse, hein, cette jeunesse qui regarde les séries.
Sûr. C'est sûr.
On vous souhaite bonne chance, Michel Faux. La première, c'est dans une dizaine de jours. À peu près, on est dans quel état 10 jours avant la première d'une nouvelle production?
On est toujours dans un état pas possible. Mais moi, je suis souvent dans un état pas possible. Donc, j'ai l'habitude, ça va.
Merci à
vous. Je suis un vrai romantique.
Merci beaucoup. On a hâte de découvrir cette production. Et bonne chance pour la première. Merci.
Merci à vous.
Cœur des marins au troisième acte du vaisseau fantôme de Wagner, toujours dans cet enregistrement récent d'Edward Gardner avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra National de Norvège. Le vaisseau fantôme au Théâtre National du Capitole de Toulouse, mis en scène par Michel Faux et dirigé par Frank Berman avec Alexei Isaïev et Ingela Bringberg. C'est à découvrir du 16 au 27 mai. Une production qui sera captée par les micros de Radio Classique et diffusée le 22 juin sur notre antenne.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Vous nous emmenez en Pologne cette semaine à Katowice.
Oui, pour découvrir le 11 mai Jephté de Händel. Et parmi tous les opéras et tous les oratorios de Händel, ce Jephté possède un caractère bien singulier. Et on sait que Händel, qui s'était installé en Angleterre en 1712, a été un auteur extrêmement fécond. Mais Jephté, c'est le dernier oratorio du compositeur. Il a été créé à Londres en 1752 et il puise dans la Bible possible un sujet tout à fait poignant, que je vais résumer en quelques mots. Le héros, donc Jephté, promet à Dieu de lui sacrifier le premier être vivant qu'il rencontrera à l'issue d'une très dangereuse bataille s'il sort victorieux de ce conflit. Et c'est sa fille unique, la douce et aimante Iphis, qu'il croise. Et on imagine bien sûr la cruauté de la situation, renforcée par le désespoir de la mère et du fiancé de la jeune fille. Et ce dilemme peut-être vous rappelle celui d'un autre chef-d'œuvre de l'art lyrique, sous la plume de Mozart cette fois-ci, et vous aurez raison puisqu'il s'agit d'Idoménée, une intrigue elle puisée de la mythologie qui est tout à fait proche, à la différence près que la victime désignée par le destin n'est pas la fille mais le fils du héros. Mais si on revient à Jephté, les deux rôles majeurs sont tenus donc par le père et la fille, dont Handel dresse en musique un superbe portrait, lui torturé par cette promesse malheureuse, luttant entre le respect de la loi divine et son amour paternel, et qui culmine cet amour paternel, on se séparera avec ça, dans un des plus beaux airs que Handel ait jamais composé, où il demande aux anges de porter sa fille à travers les nuées. Une page de tendresse, de charme, enfin on l'écoutera tout à l'heure, c'est pas la peine que je parle trop. Quant à la pure Iphis, elle fait preuve d'un courage modeste, d'une constance admirable, et que Handel traduit par des airs vocalisants ou plus linéaires qu'un oiseau ne renierait pas. Et puis autour de ces personnages, quelques autres, dont la mère angoissée et le valeureux fiancé de la jeune fille, et un cœur auquel Handel donne des pages très variées et admirables. Et c'est l'atout des oratorios que de dérouler des airs, des récitatifs, des prières, mais aussi des commentaires de l'action, dévolus donc aux voix chorales qui sont sollicitées dans des registres et dans des écritures sans cesse variées.
Alors Emmanuel, après une étape au Théâtre des Champs-Élysées, Jephté est donc à découvrir à Katowice, en Pologne, ce 11 mai.
Exactement. Et si nous ne pouvons pas faire le voyage, la chaîne Mezzo le retransmettra en direct, donc le 11 mai à 18h. On retrouvera les mêmes interprètes que ceux que le public du Théâtre des Champs-Élysées a légitimement et chaleureusement applaudi le 29 avril dernier, à commencer par le formidable Jephté du ténor Michael Spyres, qui ne se détourne pas du répertoire baroque, même si maintenant il fait des incursions de plus en plus régulières chez Wagner. Écrit dans la zone médiane de la tessiture, ce rôle de Jephté permet au chanteur de nous ensorceler de son timbre qui est particulièrement chaleureux, brillant, émouvant dans le médium de la voix. Et puis son art de la déclamation, son éloquence sont toujours aussi éblouissants. Sa fille Iphis est incarnée par la charmante Mélissa Petit, une voix légère mais une technique extrêmement sûre et qui contraste de manière très saisissante avec le timbre de mezzo de Jasmine White qui incarne son fiancé et celui de Joyce Di Donato dont le grand tempérament musical donne à la mère de Iphis une présence scénique incroyable. Et si je conclue en vous disant que cette distribution luxueuse se déploie en compagnie des instrumentistes et des choristes du Pomodoro sous la direction de Francesco Corti, je crois que je nous ai donné à tous envie d'aller en Pologne ou sur les écrans de mezzo. Absolument.
On a le sentiment que tout s'invente véritablement sur la côte ouest des États-Unis et que c'est très compliqué pour, même s'il y a une détermination, ce qui n'a pas toujours été le cas, pour faire les choses radicalement différemment, par exemple dans d'autres pays, les chances de succès de ce type d'initiative auraient probablement été très faibles.
Oui, et puis je pense que ce que montre aussi la comparaison, c'est que de la même manière qu'il y a... il y a une culture numérique globale du point de vue des acteurs dominants et donc des grandes plateformes américaines, ça on le sait tous, mais il y a aussi une culture numérique critique qui est globale. Et c'est vrai que du point de vue de la critique aussi, la centralité des États-Unis apparaît très forte, hein, et c'est par là qu'on commençait l'émission tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup frappé. Et en même temps, malgré tout, moi j'ai trouvé ça intéressant de comparer des acteurs américains et des acteurs français, parce qu'on voit aussi par exemple que pour n'en prendre qu'un exemple, hein, l'équivalent français de l'Electronic Frontier Foundation, dont nous parlions tout à l'heure, ça serait une association comme la Quadrature du Net. Alors elle est beaucoup plus petite, elle a des moyens beaucoup moins importants, mais en même temps elle est beaucoup plus indépendante, c'est-à-dire que l'Electronic Frontier Foundation a toujours accepté justement des financements des acteurs qu'elle est parfois censée combattre, comme Google et Meta, Facebook. La Quadrature du Net n'a jamais rien fait de tel, alors même que quand je les ai rencontrés, interviewés, certains m'ont dit qu'ils avaient été approchés par Google, qui leur a proposé de les financer, et ils ont refusé. Donc on a aussi, en France, malgré tout, parfois des cultures militantes qui sont un peu différentes, et qui, en tout cas par certains aspects, sont peut-être aussi plus indépendantes des grands acteurs, même si ça les rend aussi sans doute plus marginales.
Au fond, votre livre permet de comprendre comment on en est arrivé là, c'est-à-dire avec la réélection de Donald Trump et le soutien des grands acteurs de la big tech américaine, du côté de la Silicon Valley en particulier. Ça permet de voir peut-être sur quelle base une autre forme de critique peut se réarmer autrement. Je pense qu'elle commence à voir le jour, et de façon paradoxale, on va écouter, pour une fois, la musique a un lien avec le débat dans l'émission, un single que Neil Young vient de sortir, Let's Roll, dans lequel, de façon assez paradoxale, il rend hommage à Chrysler et à General Motors, et il y a cette ligne « If you're a fascist, then go and buy a Tesla ».
France Culture. La suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Petite erreur, ça c'est le morceau de 2002, Let's Roll. Le nouveau morceau de Neil Young, c'est Let's Roll Again. Je vous laisse le découvrir, il suffit de taper sur internet, vous allez le trouver. Il vient juste d'être mis en ligne. On continue de parler de la Silicon Valley avant de venir à ces questions de justice dans la rubrique actualité avec Ariel Limi qui nous rejoindra. On continue de parler de la Silicon Valley et plus largement de l'Ouest américain avec vous, Stéphanie Solinas. Vous êtes artiste. Vous avez publié il y a quelques années, 2022
ou 2020, Septembre 2023.
Oui. Dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, Lettre Plus, itinéraire pour devenir soi-même, qui est au fond une sorte de reportage littéraire, artistique, sur ce territoire dont on a parlé un peu plus large que simplement les quelques blocs de San Francisco et de la Silicon Valley. Mais même question, d'une certaine façon, qu'à Sébastien Broca, qu'est-ce qui vous a conduite là-bas, à la rencontre de ces gens guidés, un peu illuminés par des utopies, beaucoup celles de la question de l'immortalité, mais pas que, parce qu'on croise, je le disais tout à l'heure, des acteurs de l'Internet, on croise des gens qui croient vraiment que les plateformes allaient permettre des rencontres beaucoup plus intéressantes qu'autrement dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas ?
Alors, je dirais qu'il y a deux raisons principales qui ont fait que mes yeux se sont tournés sur ce territoire. D'abord, janvier 2015, la publication de la première lettre ouverte en lien avec l'intelligence artificielle, signée à l'époque par Stephen Hawking, par Elon Musk déjà, et qui présentait l'arrivée de cette intelligence artificielle, qui promettait ses bienfaits incommensurables pour l'humanité, mais également qui pointait que peut-être elle pouvait également contenir la possibilité de la fin de l'humanité. Donc évidemment, moi en tant qu'artiste depuis plus de 20 ans, je m'intéresse, disons, à ce qui constitue nos identités, entre visible et invisible, entre science et croyance, et évidemment j'ai eu envie de m'intéresser à cette part ambivalente de nos identités à venir, et donc j'ai fait du territoire de la côte ouest américaine, pionnière donc dans l'intelligence artificielle, mon terrain de recherche. Mais également... le fait que ce terrain américain soit aussi le terrain du dollar américain et du billet d'un dollar américain qui présente en fait sur l'une de ses faces le triangle, un triangle coiffé de l'œil qui voit tout. Un triangle qui nous dit que toute construction, que ce soit une construction physique, concrète, ou que ce soit une construction plutôt de l'ordre du spirituel, ne peut être achevée sans une certaine forme de transcendance. Et en fait, cette élan mystique logé au cœur même du matérialisme, qui est ce billet d'un dollar américain, me montrait que ce territoire de la côte ouest américain était exemplaire par rapport aux perspectives de développement qu'il offrait à l'humain. Est-ce qu'on se développe justement, est-ce qu'on s'augmente avec l'intelligence artificielle, avec la cryogénisation, avec repousser les frontières de la mort, le transhumanisme, le biohacking, ou est-ce que l'on s'augmente avec une forme d'augmentation de développement personnel ou d'augmenter le potentiel humain, pour reprendre en fait les termes du New Age qui sont nés sur le même territoire exactement que la Silicon Valley.
Vous dites entre science et croyance, et on voit bien que ce contraste vous intéresse parce que c'est ce même petit territoire qui voit à la fois de grands scientifiques rationnels travailler et puis des gens totalement illuminés qui vont donner le New Age en particulier.
Absolument, et vraiment que ce territoire-là soit le berceau commun de ces deux propositions m'interrogeait. Et après plusieurs années donc, de recherche et d'enquête sur ce territoire, ce qui m'est apparu, c'est qu'en fait, ces deux éléments sont évidemment beaucoup plus imbriqués. Et en ça, vraiment, je trouve des raisonnements par rapport au livre de Sébastien Broca, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui... C'est la même chose, c'est deux faces de la même médaille quasiment.
La
même culture, exactement.
Donc cette culture, vous avez décidé de la saisir notamment avec des mots. Je dis notamment parce que votre travail et ce projet de recherche, ce programme de recherche artistique, il continue. Il y a une exposition actuellement à Paris dans une galerie qui est encore un jalon de ce travail qu'on peut voir jusqu'au mois de juillet. On mettra les références sur la page de l'émission. Mais vous avez décidé, pour le livre que je citais, de le faire non pas avec des images en mouvement ou fixe, comme vous le faites habituellement, mais avec des mots et en trouvant une forme narrative
particulière. Ces deux livres qui assument leur choix de narration, des narrations très très différentes, mais vous la mettez en scène, véritablement, avec ce personnage de la narratrice dès le départ. Stéphanie Solinas.
Oui, ce livre, pour moi, je le considère vraiment comme à la croisée. Enfin, c'est à la fois un essai pour moi, à la fois un récit et à la fois une pièce plastique autour, voilà, de cette question de l'humain augmenté. Et notamment parce que la question de l'augmentation, elle prend des formes plastiques, en fait. C'est la question de la forme du réseau qui a dirigé la construction même du livre, en fait. D'une part, la forme d'un territoire qui devient. Je parle d'un atlas routier quand je parle de ce livre, parce qu'un atlas routier, c'est un territoire qui devient un livre.
Et oui, vous citez Borges d'ailleurs sur le sujet.
Par exemple, voilà, exactement. Et quand un territoire devient un livre, quand on suit une route, parfois la route que l'on suit se trouve sur la page qui suit, et parfois on est obligé de sauter plusieurs pages pour retrouver sa route. Et en fait, le livre, il est vraiment construit avec ce principe de saut, de navigation, d'augmentation, de lien. Évidemment, cette référence plastique au fonctionnement de l'Internet m'intéressait, et je trouve que c'est une forme, la forme du réseau est une forme qui permet de penser le monde contemporain.
Il y a quelqu'un à qui j'ai beaucoup pensé, Sébastien Brocard, en lisant le livre de Stéphanie Solinas, c'est Stuart Brand, évidemment, parce que s'il y a un homme réseau, c'est lui. Il n'a rien fait, et en même temps, il était toujours là, quoi qu'il se passe, la première démo, le premier... Enfin, et au fond, ce livre, c'est un peu dans le sillage du Whole Earth Catalog, c'est-à-dire un almanach que Stuart Brand a inventé pour les hippies, parce qu'on ne peut pas dire qu'il était hippie lui-même, c'est plus compliqué que ça, il venait du monde de la côte Est, des artistes, performeurs américains, mais au fond qu'il est allé vendre dans toutes les communautés avant d'inventer cette idée de communauté numérique qui fondera le web, en fait. Mais je vois là une filiation très directe.
Ah oui, oui, mais c'est toute cette histoire qui, comme vous citiez Fred Turner tout à l'heure, hein, qui a été très bien racontée par Fred Turner, donc dont l'ouvrage était sous-titré « De la contre-culture à la cyberculture ». Donc c'est toute cette histoire-là. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Stéphanie à l'instant, en parlant de deux faces de la même culture. Et c'est vrai que je trouve qu'on le voit depuis quelques années en matière d'IA. Vous parliez de ce texte de 2015. Bon, il y en a eu d'autres depuis l'avènement de ChatGPT, des textes extrêmement alarmistes, catastrophistes, sur le risque existentiel que représenterait l'IA. Et pour un certain nombre de personnes, mais auxquelles je m'associerai, en fait, le catastrophisme en matière d'IA n'est que l'envers des discours promotionnels des grands acteurs de la tech. Le catastrophisme est une forme de publicité gratuite pour l'IA, ou une forme, en tout cas, de, peut-être pour le dire plus justement, une manière de crédibiliser les promesses, souvent extrêmement, peut-être déraisonnable, ou en tout cas hyperbolique, qui sont faites par les grands acteurs de l'industrie, qui nous disent que l'IA va pouvoir... qu'on va atteindre ce qui s'appelle AGI, et donc une intelligence artificielle générale, que l'IA va pouvoir résoudre tous les problèmes du monde, à peu près, hein, depuis le réchauffement climatique jusqu'aux inégalités. Voilà. Et en fait... Le discours catastrophiste est une manière d'avaliser la puissance de ces outils. Et ce sont les. Voilà. Donc, c'est la face plus et la face moins, pour le dire simplement. Mais ce sont, à mon avis, les deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que, pour moi qui m'intéresse à la critique, au discours critique, je suis un peu réservé face à ce type de discours catastrophiste qui, à mon avis, accorde trop de crédit aux proclamations hyperboliques des acteurs de l'industrie et nous détourne aussi des problèmes très actuels que posent ces dispositifs qui ont finalement peu à voir avec l'avènement dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans d'une intelligence artificielle consciente d'elle-même et qui risquerait de tous nous égouiller.
Oui, on est loin du catastrophisme éclairé, cher Jean-Pierre Dupuis. C'est plutôt le catastrophisme marketé, en quelque sorte, que décrit Sébastien Brocard à l'instant, Stéphanie Solinas. Je voulais revenir sur le dispositif aussi de votre livre, qui est un dispositif de rencontre. Au fond, tout ce qui a été décrit comme évolution, comme système, est incarné par des personnages, quand même. Vous êtes allé à leur rencontre. Sébastien Brocard aussi, un peu à sa manière. C'est pas possible d'écrire l'histoire sans ces acteurs, sans ces personnes qui jouent des rôles importants, au fond.
Oui, et cet aspect-là, il était vraiment très important pour moi. Alors peut-être que c'est une filiation que je n'avais pas identifiée avec Stewart Brand, une forme de do-it-yourself que j'aurais tenté d'incarner, parce qu'il y a vraiment cette idée de mettre mon corps en jeu, c'est-à-dire qu'il était très important pour moi d'aller sur ce territoire, de me perdre au volant de ma voiture.
Et dans des interactions de face à face.
Exactement.
À ce moment même où elles ont tendance à se mettre à...
Une rafale.
Des tubes.
Fréquence 3.
My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said.
Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the devil and the rambling backslider, tell him God Almighty gonna cut him down.
He might run
through. Josephine, I send you a
I could love you more. I might not be the one. C'est comme votre monnaie, c'est précieux. Professionnels, particuliers, déposez vos métaux ou votre ferraille chez De Richebourg Environnement et repartez avec un chèque. De Richebourg Environnement à Fossé et Saint-Ouen. Plus d'infos sur derichebourg.com.
Envie de voyager en Polynésie? Rendez-vous les 24 et 25 mai à la salle Eva Paris de Motodon pour un week-end 100% polynésien. Au programme, artisanat d'art, massage, initiation à la danse tahitienne et dîner spectacle. Venez découvrir la culture des îles avec l'association La Cuisine des îles d'Eraini 987. Plus d'infos sur le Facebook La Cuisine des îles d'Eraini 987. Ou par téléphone au 06 75 24 78 39. 06 75 24 78 39.
Que vous soyez professionnel ou particulier, choisissez l'entreprise Defin, spécialiste en terrassement et travaux publics. Plus de 39 ans d'expérience au service de vos terrassements, assainissement autonome, tranchées techniques, petite démolition, viabilisation, pose de clôture et aménagement extérieur. Entreprise Defin à Autrèche ou sur www.defin-37.fr.
À la réserve de Beaumarchais, l'aventure vous appelle. Montez à bord du Safari Train et partez à la rencontre des grands gibiers, des majestueux cerfs aux adorables marcassins. Vivez l'émotion d'une visite guidée passionnante et